c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et on va tout de suite démarrer par le sommaire de cette nouvelle hebdo de Chute, on écoute la télé, consacrée notamment à la sortie du film de Louis-Julien Petit, La Brigade. Dans un instant, la productrice Lisa Benguigui, accompagnée de Louis-Julien Petit, Amadouba, Fatou Kaba et Audrey Lamy, vont nous rejoindre pour une grande spéciale exceptionnelle du film donc La Brigade, qui sort mercredi dans les salles. Nos coups de cœur télé avec Virginie Ledoyen, qui sera notre invitée exceptionnelle aujourd'hui pour L'île aux 30 cercueils, qui débarquera ce soir sur France 2. Fabien Wolfram également, il interprète Louis Guinaud dans Ici tout commence. Il a de multiples projets à nous présenter pour cette année 2022. Il sera avec nous. Et puis en fin d'émission spéciale Le Temps des Secrets, le film de Christophe Baratier qui sort également mercredi dans les salles. Christophe Baratier sera avec nous accompagné de Mélanie Douté.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on démarre notre spécial La Brigade, le nouveau film de Louis-Julien Petit, que l'on soutient évidemment à chaque sortie de ses films. Après Les Invisibles, eh bien c'est La Brigade que l'on va voir mercredi dans les salles. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa productrice Lisa Benguigui du Ken, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Louis-Julien Petit, bien sûr, qui est là avec nous. Fidèles tous les deux. Bonjour Louis-Julien.
Oui. Bonjour.
La Brigade. Comment est venue cette idée de cette chef qui plaque tout et qui se retrouve, malgré elle au début hein, quand même, eh ben à faire la tambouille en gros dans un foyer pour migrants, et ça va changer sa vie en quelque sorte dans ce film. Comment est venue cette idée dingue?
Alors déjà il y avait Sophie Ben Sadoun qui elle avait l'idée de faire une fiction, avait travaillé en fait avec à Tréniac dans le sud-ouest de la France, qui connaissait une chef qui s'appelle Catherine Rojan et qui a dit il y a peut-être une idée d'en faire une fiction. J'ai dit mais c'est quoi Lisa était oui, m'a présenté.
La chef était professeure dans un CAP de cuisine pour jeunes migrants, et cette Sophie Ben Sadoun est venue me voir avec une idée de fiction à faire éventuellement là-dessus. Et moi, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit tout de suite, les jeunes migrants, la cuisine, cette personnalité-là et l'aspect positif d'intégration que ça pouvait apporter, je me suis dit c'est un sujet pour Louis-Julien. Donc j'ai dit à Sophie, bon, moi je trouve que le sujet est intéressant, mais je pense que il faut l'empreinte de Louis-Julien. Et donc je les ai mis en contact.
Du coup, je suis allé là-bas, je suis allé donc dans le sud-ouest, je suis allé voir. Et là c'était drôle parce que là-bas, dans cette classe de CAP cuisine, donc il y a cette prof en couleur, et puis d'un autre côté, il y a des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui sont là formés. Et Sophie m'a dit, tu vas voir, il y a 100% de réussite, mes diplômes, des diplômés, donc des élèves qui sont diplômés en CAP cuisine. Et en plus, il y a 100% des jeunes qui arrivent à avoir un emploi et qui arrivent à avoir leur papier en France. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit que il fallait poser cette caméra à cet endroit-là. D'un côté, avec des jeunes qui ont envie d'apprendre, et d'un autre côté, avec des secteurs en France qui sont en pénurie, notamment la restauration. Et il restait à savoir la tonalité. Il fallait utiliser la comédie comme arme pour rendre ce sujet populaire au sens noble du terme. Et d'un autre côté, il fallait aussi trouver ce personnage fictionnel de Cathy Marie, qui lui est une purement fictionnelle.
C'est une vraie histoire d'amitié entre vous deux quand même aussi. Hein. Il y a une vraie amitié professionnelle qui s'est nouée, qui s'est liée au fil des films. Moi, je me rappelle la première fois, c'était pour Discount qu'on s'était vus ensemble il y a maintenant quelques années.
On change pas. Si peut-être sur ce film qui parle sur la brigade, il parle de transmission. Donc, on a été parents tous les deux. Pas ensemble, mais on a eu chacun une fille. Et c'est vrai que quand on fait un film sur la transmission, comme dans La Brigade, voilà, comme le personnage de Cathy Marie qui va transmettre son amour de la cuisine, et ben il y a toute cette interrogation de ce qu'on a reçu, ce qu'on transmet, comment on le fait, les souvenirs, la famille, parce que la famille autrement. Et puis c'est une histoire. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà.
Comment vous êtes répartis les tâches au niveau scénario, tous les deux?
Moi, j'ai eu l'idée de lui amener, et après c'est vraiment un travail de ping-pong, c'est-à-dire que Julien, il a une capacité extraordinaire à, en 5 jours, pondre presque un scénario en entier, me revenir. Là, je lui dis, bon, ça va pas, ça va, ça, machin. En 3 jours, c'est comme s'il était reparti d'une page blanche. Il a une capacité de rebond qui est assez extraordinaire, et c'est un travail qui est hyper, enfin, moi, j'adore cette phase d'écriture, parce que il est jamais essoufflé.
Parce qu'en fait, d'abord, il y a le sujet, et puis il y a un enjeu d'écriture, il y a un enjeu de attention, de quoi on traite, de pas éluder quand on est sur de la comédie sociale, sociétale, comme La Brigade, ou les films que j'essaye de faire. Il faut pas éluder le sujet, et en même temps, il faut créer des moments
de... tomber dans le pathos, oui.
Et vraiment créer des moments de comédie.
Une chose qui pourrait faire peur à beaucoup de réalisateurs, mais qui, toi, ne te fait jamais peur, c'est de faire tourner plein de gens pour la première fois.
Écoute, moi j'aime bien ça. J'aime bien la pureté, la sincérité, la pureté d'Amadou, la candeur de Fatou Kama qui explose l'écran. C'est sa première intervention, mais elle avait fait valider. Mais là, au cinéma, c'est son premier rôle, première fois qu'elle est dans un film, quoi. Et c'est extraordinaire. Moi, j'entends la salle dès qu'elle est à l'écran. Les gens explosent de rire parce qu'elle a ça.
Dernière petite question, parce qu'il y a un truc qui m'a frappé à la fin sur le générique. On voit que les portraits, on voit des portraits, j'en dis pas plus, hein, pour pas déflorer, et on voit expulsés. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont été expulsés depuis le tournage du film ou pas?
Quand tu parles d'expulsion, c'est un sujet majeur, parce que quand on parle de migrants, ce qui est génial, c'est que tu peux parler à Amadou, la première chose qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Hein. Ils sont venus pour commencer à vivre, pour arrêter de survivre, pour apprendre des choses, pour donner leur envie, leur savoir aussi, et ils sont déracinés, donc ils ont un truc pour se dire qu'est-ce que je peux apprendre pour réussir ma vie, comme dirait Gus Gus. Et nous, dans le film, comme c'était des réfugiés maintenant, donc ils ont le droit de travailler en France, et du coup ils étaient majeurs. Donc ça restera de la fiction
À
ce niveau-là pour nos personnages.
Un vrai beau film qu'on va découvrir au cinéma mercredi. Fatou et Amadou vont venir nous rejoindre dans quelques instants. On va écouter la bande-annonce de La Brigade. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette spéciale. Je vous embrasse et je vous dis au prochain film.
Bah oui, bien sûr.
Merci beaucoup.
À suivre, une tempura, un cannelloni.
La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité.
On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles.
Ils ont aimé ou pas?
C'est pas la question.
Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, bah moi je me casse.
Et du boulot, du taf, il y en a.
Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte?
Oui, salut, c'est Cathy Marie à l'appareil. Bah vas-y, tu me rappelles alors.
Et on continue notre spécial La Brigade, notre coup de cœur ciné cette semaine. Et on va continuer à en parler justement avec Fatou Kama qui est avec nous, qui joue le rôle de Fatou dans le film. Bonjour Fatou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis Amadou Ba qui est avec nous. Merci d'être là aussi.
Bonjour, merci.
Bon, comment allez-vous? À 2 jours de la sortie du film, comment on se sent là déjà? Vous qui l'avez présenté lors d'avant-première, vous en avez fait une magnifique à l'Alpe d'Huez il y a quelques semaines maintenant. Comment vous vous sentez là?
Écoutez, beaucoup de stress. C'est notre premier long métrage à tous les deux, donc naturellement, on espère qu'on est bien dedans, que le film va plaire, la thématique est belle, surtout que c'est joué de façon très sincère. Pour moi, c'est un film qui a sa place et j'espère qu'il va faire son effet.
Moi, j'en suis sûr aussi. Amadou,
c'est un film qui me tient beaucoup à cœur. Du coup, je suis super content que tous les gens qui ont regardé, ils ont aimé, et ça fait trop plaisir.
J'imagine que ça doit faire super plaisir. On a planté le décor avec Louis-Julien Petit à l'instant. On va parler un petit peu plus de vos personnages. Comment tu définirais toi Fatou?
Fatou, c'est une fille très bienveillante qui veut le bien de tout le monde, mais qui va être une superstar, quoi. Ça veut dire que c'est tout ce qu'elle fait, elle l'amplifie fois 1000, et ça se voit dans ses looks, dans ses coupes, c'est une fille qui abuse, quoi. Mais elle est top. super gentille, très aimante de Cathy Marie. Les gens vont prendre de plaisir à la découvrir.
Avez-vous une admiration sans faille presque à Cathy Marie?
Bah, c'est sa meilleure amie, elles ont grandi en foyer ensemble, donc naturellement elle est impressionnée par son parcours et elle se dit mais waouh quoi, ma copine elle a réussi quoi, c'est trop bien.
Amadou, ton rôle?
Mamadou c'est un jeune qui est super motivé, qui a envie de réussir et qui est très 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 sérieux, qui prend en sérieux ce qu'il a envie de faire et qui rêve de devenir un chef un jour.
Comment vous avez pris le fait justement d'être pris dans ce film tous les deux et de se dire ouais, on va jouer aux côtés d'Audrey Lamy et François Cluzet quand même? C'est incroyable.
Oui, franchement, c'est super, surtout que moi, je le savais pas du tout. De base, moi, quand j'ai passé le casting, Louis-Julien m'a fait beaucoup travailler. Je savais même pas si j'allais être prise. Et puis, c'est une fois que j'ai été prise, une bonne semaine après, qu'il m'a dit ça, parce que je pense qu'il allait mettre une grosse pression. Et c'est super pour un premier long métrage de jouer aux côtés d'acteurs confirmés, comme ça, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de techniques, qui sont surtout très bienveillants, donc ça fait très plaisir.
De faire un film comme ça, est-ce que ça donne des envies particulières?
Oui, ça m'a donné envie de refaire un autre film. Je serais super content d'avoir les autres opportunités comme celle-ci.
Ben oui, j'imagine ça tout. Toi?
Moi, naturellement, oui. Je pense que j'ai toujours voulu en faire un métier. Moi, j'ai commencé par le théâtre et puis j'ai fait un peu de réseaux sociaux. Et là, j'ai fait valider. J'ai fait un film d'animation qui s'appelle Tous en scène 2 où j'ai fait les voix, où j'ai fait la voix de Nouchi. Là, consécration, je sors mon premier long métrage et je suis trop contente. En fait, c'est une continuité. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça.
Vous avez une anecdote, une scène particulière qui reste marquée, qui reste gravée? Oh, je sens Fatou, toi, que t'en as une qui arrive tout de suite.
Ouais, franchement, j'en ai une très bonne. On tournait une scène dans un froid incroyable. C'est-à-dire que j'avais jamais eu aussi froid de toute ma vie. Et du coup, j'arrivais pas à sortir mon texte. J'avais tellement froid que j'arrivais pas à sortir mon texte. Et du coup, je regardais Audrey, je me disais, mais comment elle fait? En fait, elle avait des chaufferettes et pas moi. Mais parce que j'en avais pas demandé, en fait. Donc, ils avaient oublié de m'en mettre et tout. Et quand j'ai mis les chaufferettes, ah, ça allait mieux. Mais c'était trop marrant. J'étais comme, je t'attendais de vie. Oh, c'était horrible.
C'est-à-dire qu'elle balançait son texte normalement et toi en fait tu claquais des dents quoi.
Mais je claquais des dents, je claquais des pieds, j'étais pas bien. J'étais en alchimie avec le vent et tout, je sais pas s'il allait m'emporter ou me congeler sur place, j'étais pas bien. Et je voyais Louis-Julien Petit avec une pêche incroyable, je me dis mais d'où sort cette énergie? C'est les chaufferettes en fait les gars, ils m'ont eu, ils ont une avance sur moi tu vois.
Ça s'appelle le bizutage, ouais. Du premier long métrage. Et toi Amadou, est-ce qu'il y a une scène particulière qui ressort aussi?
Oui, la scène là où j'ai joué avec Audrey, quand je suis venu en... l'a rencontré dans la maison pour présenter ma mère. Elle m'a dit, à chaque fois que je vois cette scène, ça me touche beaucoup, j'ai envie de pleurer parce que c'est
que ta mère veut absolument lui parler.
Exactement, c'était super et c'était marrant parce que ma mère sur le film, elle était trop trop marrante, elle me faisait trop marrer pendant le tournage et cette scène me touche beaucoup. À chaque fois que je regarde, ça me touche.
Mais c'est ta vraie mère qui parlait en fait?
Non,
c'est une comédienne.
Oui.
Mais donner un réplique quoi.
Exactement, mais je jouais vraiment comme si c'était ma vraie mère, tu vois. Et c'est ma scène préférée.
Elle vous a donné des conseils, Audrey ou François Cluzet? Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils? Est-ce qu'ils vous ont un peu guidé? Ça a été un peu vos parrains sur ce tournage?
Bah moi j'ai beaucoup plus joué avec Audrey que François, mais chacun à leur niveau. Mon conseiller, Louis-Julien Petit, m'a beaucoup conseillé, m'a beaucoup épaulé. Et franchement, toute l'équipe en réalité, dès qu'on avait un besoin ou dès qu'ils sentaient que là c'était pas trop ça, parce que sur les tournages, comme vous le savez, c'est un peu compliqué. Il y a des hauts, des bas. On sait pas trop comment on appréhende les scènes, on sait pas trop comment on les joue. Et en fait, il y a toujours une personne qui va venir nous conseiller, mais c'est vrai qu'Audrey très bienveillante, François pareil, Chantal Neuwirth aussi, et même entre nous quoi, on se donnait beaucoup de force, donc c'était méga cool.
Pareil, moi à chaque fois que j'ai joué à une scène qui était super, elle me disait bravo, c'était trop bien, vraiment, franchement pour la première fois c'est super, elle disait waouh, ça me motivait à chaque fois que j'ai joué à une scène, ça me motive à chaque fois qu'elle me dit ça en fait.
Bon, en tout cas, on va voir les brigades. C'est mercredi dans les salles. C'est le film vraiment que je vous conseille de pas rater cette semaine. C'est un très très beau coup de cœur qu'on vous propose une nouvelle fois. Mais avec Louis-Julien Petit, on n'est jamais déçu. Et on va se requitter avec un extrait. Merci Fatou, merci Amadou d'avoir été avec nous.
Merci à vous tous et
merci beaucoup.
Bienvenue au foyer.
Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte.
Oh. Bonne nuit alors.
Tu m'entends quand je parle comme ça?
Ah non, à peine, hein. À peine.
Mais quel enfer!
Vous avez vu l'état de la cuisine?
Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules.
Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici, ils attendent que ça.
On est là!
Mais enfin, c'est pas possible, ils sont combien?
Ben, je t'avais dit, ils sont très motivés.
Vous avez des planches et des économes, là.
C'est quoi, économes?
Ils ne savent rien faire.
Ben oui.
On continue à parler de la brigade dans un instant. Audrey Lamy nous rejoint, mais on marque une petite pause. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on va conclure notre spécial La Brigade. Le film sort mercredi dans les salles après Lisa Benguigui, Louis-Julien Petit, Amadou Ba, Fatou également qui était avec nous à l'instant. La cerise sur le gâteau, oui, elle est là. Elle joue le rôle de Cathy Marie. Audrey Lamy qui est notre invitée. Bonjour Audrey.
Bonjour, je suis donc la cerise sur le gâteau. J'adore cette image.
Puisqu'on est, on parle un peu cuisine quand même, hein, t'as vu, hein.
Non, oui, bien sûr. Ouais, le rôle de cette femme qui est seconde dans un grand restaurant, qui est à côté d'une très grande chef et c'est un personnage qui n'est pas écouté, qui n'est pas compris, qui n'est pas entendu et qui a une ambition folle, qui a un rêve en tête, c'est de devenir chef et on lui donne pas la possibilité de l'être. Elle est empêchée de faire ce qu'elle aime, elle est empêchée d'aller jusqu'au bout de ses envies et du coup elle va claquer la porte de ce grand restaurant en se disant que on va trouver mieux ailleurs et puis finalement pas du tout, elle se retrouve à accepter un rôle de cantinière dans un foyer de jeunes de réinsertion de jeunes migrants mineurs et donc du coup elle se dit mais qu'est-ce que je fais ici? Je vais économiser de l'argent et je vais me barrer pour monter mon propre restaurant, ma propre brigade. Et finalement, voilà, petit à petit, le personnage évolue, le personnage devient plus adulte, plus calme, parce que moins frustré et parce qu'elle va finalement réaliser son rêve autrement.
Je suis sûr que tu as eu des rencontres incroyables dans ce film avec les comédiens qui viennent de passer avec Fatou, avec Amadou. Il y a des rencontres dingues avec tout ce casting, ouais. Comme Julien sait si bien les choisir.
Ouais, rencontre incroyable avant, pendant, après le tournage. Déjà parce que pour interpréter ce personnage, il fallait évidemment que j'intègre une brigade, qu'il fallait vraiment faire un travail d'investigation pour honnêtement mon plat fétiche, ma signature, c'est des coquillettes au jambon. Bon, on est quand même loin d'un chef étoilé, donc il fallait quand même que j'aille suivre une sorte de formation, voilà. Donc j'ai été coachée par Christophe Hiermi qu'on voit dans le film d'ailleurs un tout petit peu quand je me fais jeter du restaurant de Lina Delito. Et il m'a suivi évidemment pendant 6 mois. Il m'a donné des cours, il m'a transmis sa passion. Et moi, comme je transmets ma passion à ces jeunes, voilà, j'ai capté du coup plusieurs choses chez lui. Bon, là, je passe sur une autre question, mais juste pour vous dire déjà que ça, déjà, c'est une rencontre incroyable avant le tournage.
Cette préparation,
ces personnes que j'ai rencontrées, ces chefs passionnés qui sont prêts à mettre parfois aussi leur vie personnelle de côté pour vivre de leur passion. Pour nous faire frétiller par ce qu'ils nous proposent dans leur assiette, de voir l'enthousiasme, la persévérance, la remise en question, l'organisation de ce métier. C'était hyper enrichissant déjà de voir tout ça, d'intégrer cette brigade dans ce grand restaurant qui s'appelle Apicius, tenu par Mathieu Paco, sublime chef. Voilà, d'observer, de les voir, d'apprendre une technicité. En quelques mois, évidemment, en 6 mois, je pouvais pas apprendre ce qu'ils avaient appris depuis tout jeune, mais en tout cas pour être le plus crédible possible. Et puis c'est très militaire, hein, c'est très violent, c'est très brutal, il y a très peu de femmes donc il faut aussi trouver sa place et j'ai pu observer voilà des personnalités qui m'ont évidemment nourri et enrichi pour fabriquer ce personnage, pour construire ce personnage. Donc déjà là, une rencontre folle. Arrive le tournage, je ne connais pas ces jeunes, je rencontre très rapidement Fatou, celle qui joue ma meilleure amie dans le film, mais je ne connais pas ces jeunes. Premier jour, première scène, première prise, j'arrive sur le plateau, je suis habillée, maquillée, et c'est la première fois que je les rencontre, et c'est la première fois que je vais jouer avec eux. Il n'y a pas eu de lecture avant, de quoi que ce soit. Et on a tourné le film dans la continuité de l'histoire. on apprend à se connaître, et puis au bout d'un moment, et ben on se confie, on se livre. Il y a des moments de joie, des moments qui sont bouleversants quand ils me livrent et qui me confessent ce qu'ils ont traversé. Donc il y a des moments très forts devant la caméra, mais aussi hors caméra. Et donc voilà, tout ça, ça vous rend pas, enfin ça vous renforce dans le jeu, mais dans l'humain, dans ce qu'on est.
Et nous ont quand même confié à l'instant, Fatou et Amadou est impressionné quand même de jouer avec toi.
Je sais pas, moi j'étais en tout cas très impressionnée de voir à quel point. Alors Fatou, elle a une expérience de jeu, elle a déjà tourné, etc. On l'a vu dans Validé et tout ça. Mais j'étais fascinée par la voir trouver ce personnage-là, y aller sincèrement, parce que Fatou, c'est la respiration aussi, c'est la comédie du film. Hein, c'est le voilà, la petite pépite, la petite fraîcheur qui va embarquer, nous a embarqué en tout cas dans quelque chose de positif et de drôle. Moi j'étais séduite par sa folie, sa créativité, et de pas être gênée, d'y aller franchement, de pas se poser de questions. Et puis après, j'étais évidemment séduite, mais totalement par ces jeunes. Vous avez vu Amadou, qui joue Mamadou dans le film. On a une scène qui est, moi, c'est une de mes plus belles scènes, hein, quand il me dit « je vous aime beaucoup, chef ». Waouh, il a beau ne pas avoir d'expérience, c'est la toute première fois qu'il joue devant une caméra et face à un acteur professionnel, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je sais pas, parce que quand on les voit jouer, on se dit « waouh, voilà, c'est beau à voir ». Il y a plein de moments, enfin quasiment tout le temps, hein, comme on était vraiment dans la sincérité, dans la vérité, comme Louis-Julien a pu vous en parler, j'imagine, puisqu'il connaissait pas le scénario, il connaissait pas le texte, il savait évidemment le thème et de quoi ça parlait, mais ils avaient pas de dialogue, donc ils arrivaient tous les jours en se disant « mais qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui ?» Donc il y avait une authenticité, un naturel qui m'ont, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup nourri et beaucoup aidé pour interpréter ce personnage.
Il y a un vrai message d'intégration, plus, dans ce film, c'est ça que j'ai aimé aussi par-dessus tout.
L'intégration positive, voilà, pas ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce message négatif dont on ne peut plus, en se disant qu'il n'y a pas de solution et qu'il faut juste les renvoyer chez eux. L'intégration positive par l'apprentissage, par la transmission d'un savoir, de tout ça, et des solutions que nous propose Louis-Julien dans ce film et un autre regard. Voilà, un autre regard. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand on présente le film dans les salles, qu'on est en pleine tournée avant la sortie, c'est que on voit que les gens ont appris du sujet réellement, et on sort de là, on a appris, on a été sensible, on a été bouleversé, on a ri, parce que l'humour, ça reste quand même une force et une arme incroyable pour toucher un maximum de gens. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes en plus en salle, alors ce qu'on n'avait pas sur Les Invisibles, parce que voilà, parce que c'est rafraîchissant quand même, parce que il a réussi à trouver un équilibre entre la réalité, parce qu'il fallait surtout pas fallait retranscrire quand même des choses aussi dramatiques, dures, respecter aussi ce qu'ils ont vécu, mais en y injectant que de l'amour, de l'humour et de l'humain, c'est ce qu'on se dit à chaque fois avec Louis-Julien.
Ouais, et puis c'est vraiment le ton de la comédie, très finement posé par Louis-Julien là-dessus. La dernière fois qu'on t'a eu, c'était fin janvier, juste après le festival de l'Alpe d'Huez, pour justement réagir à ton prix d'interprétation féminine. On t'a senti hyper ému, évidemment, à ce prix qui voulait dire beaucoup de choses pour toi.
Alors beaucoup de choses, carrément, parce que déjà j'adore ce festival. Franchement, je suis fan de ce festival de l'Alpe d'Huez. Je trouve ça formidable, le principe, juste de voir des comédies en moon boots et en finissant par une raclette, si vous voulez. Moi, c'est mes trois passions.
Donc déjà, j'avoue,
je trouve que le concept est juste absolument génial. Voilà, on est en jean, personne. Voilà, il n'y a pas de. C'est d'une simplicité folle, et en même temps, c'est extrêmement bien organisé par Fred et Clément, qui font un travail dingue, par le choix aussi, les sélections des films, de qu'est-ce que c'est que l'humour, qu'est-ce que c'est que la comédie, à quel moment on se positionne, etc., de comédie sociale, dramatique, comédie romantique, comédie très populaire et comédie... Voilà, donc je trouve qu'il y en a pour tout le monde, et que ce film-là soit récompensé, parce que je reçois le prix, mais c'est comme un chef, hein, moi je dépends aussi d'un réalisateur, d'une brigade, et ma brigade, c'est mon équipe, c'est mes partenaires de jeu, donc ils sont tous à l'affiche, et sans eux, j'aurais jamais eu le prix, donc je les remercie. La première fois que j'ai rencontré François Cluzet, c'était juste avant le tournage. Je l'adore, je l'aimais beaucoup, je rêvais vraiment de tourner avec lui, et il s'est approché de moi, il m'a dit « je suis hyper content de tourner avec toi, et je vais tout faire pour te sublimer, pour te porter, parce qu'il n'y a pas de bons acteurs, ni de bonnes actrices, il n'y a que des bons partenaires. » Ça, c'est quand même la grande classe. Donc, je vais tout faire pour te sublimer. Donc, voilà. Donc, ce prix-là, on me le remet, mais on le remet aussi à toute l'histoire, à tout le message que véhicule ce film, à tous les mes partenaires de jeu, à Louis Julien, évidemment, en premier. Donc, pour tout ça, c'était hyper émouvant. J'étais très émue de recevoir pour la première fois mon premier prix d'interprétation. C'était mon anniversaire deux jours avant. Je peux vous dire que c'était un sacré cadeau. Voilà.
Et ben rien que pour tout ça, il faut aller voir La Brigade mercredi au cinéma. Moi, je vous le conseille. Merci à toute l'équipe qui est passée pour nous parler de ce très beau film de Louis-Julien Petit. C'était vraiment une belle spéciale qu'on a fait avec vous tous. Alors merci encore à Lisa, merci à Louis-Julien, merci à Fatou et à Amadou, et merci Audrey d'avoir clôturé cette spéciale La Brigade avec nous.
Merci, merci à toi.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à L'île aux 30 cercueils qui démarre ce soir sur France 2, une nouvelle mini-série avec en vedette Virginie Ledoyen qu'on a plaisir à retrouver. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai eu la chance de voir cette fiction un petit peu avant tout le monde puisqu'elle est sur Salto en intégralité. Si vous n'avez pas justement la patience d'attendre, vous avez l'intégralité de la série. C'est addictif, c'est passionnant et en même temps, on tremble avec l'héroïne. On y suit l'histoire de Christine qui reçoit une vidéo de son accouchement qui date de plus de 15 ans. Et elle y découvre que son enfant qu'elle pensait mort-né n'est pas mort-né mais aurait tout simplement été assassiné. Elle va retourner sur cette île où elle a vécu, l'île de Sarek, pour essayer de rétablir et de découvrir la vérité. Et ça va être un parcours semé d'embûches. C'est bien résumé ?
C'est extrêmement bien résumé. Bravo.
Alors, il est vrai que les paysages sont extraordinaires. Vous avez dû passer un tournage dans ces paysages bretons qui sont dingues en plus.
Ouais, qui sont dingues, qui sont à la fois très très sauvages, très intemporels aussi, ce qui, même si évidemment c'est transposé aujourd'hui, mais que c'est l'adaptation d'un roman de Maurice Leblanc, qui avait été écrit au tout début du siècle. Donc oui, ça amène une sorte, oui, de comme ça, d'intemporalité. Et puis c'est une île belle avec des gens qui nous ont accueillis d'une manière absolument adorable, très ouvert. Donc voilà, moi j'en garde un souvenir précieux.
Alors c'est justement ça qui m'a surpris, c'est que souvent quand on adapte un roman, c'est un roman qui date d'il y a pas très longtemps. Là, on est vraiment dans le début des années 1900. Ce roman de Maurice Leblanc qui est absolument incroyable en rebondissement. Est-ce que vous l'avez lu, vous, ce roman avant de tourner, ou est-ce que vous l'êtes interdit justement pour vous approprier un peu aussi l'adaptation ?
Ouais, exactement. Je ne l'ai pas lu avant le tournage. Je l'ai lu ensuite à la fin lorsqu'on avait fini. Parce que d'abord, d'une part, c'est l'adaptation d'un roman. D'autre part, il y a une série qui a déjà été faite dans les années 70. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient. Et je trouvais que, voilà, c'était bien aussi qu'on s'en détache un petit peu et qu'on essaye d'amener quelque chose d'original. Même si je trouve, et c'est important, qu'on garde cet esprit du roman qui est à la fois, alors évidemment, une enquête, avec tous les rebondissements qui vont avec, ce que fait très bien Maurice Leblanc, comme il l'avait fait pour Arsène Lupin, par exemple, mais aussi un vrai portrait psychologique, un portrait de femme aussi.
Ouais, c'est clair, on va dire que rien ne lui est épargné hein, lors de son retour sur l'île de Sarek. Dès le premier épisode, on est vraiment baigné dans l'histoire, où elle va découvrir déjà, rien que pendant le premier épisode, mais je ne sais combien de rebondissements. Et c'est comme ça
tout
le long, quoi.
Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il lui arrive énormément de choses et qu'elle est très, très mise à mal. Et à la fois, c'est une femme qui est vulnérable et fragile parce que la perte de son enfant 20 ans plus tôt l'ont littéralement brisée.
Oui.
Mais à la fois, elle a une détermination, une soif de vérité et une envie de se réapproprier son passé qui, de toute évidence, lui a été volé. Et c'était aussi ça qui était vraiment intéressant et excitant dans le personnage de Christine.
Et on va voir que la vidéo ne révèle peut-être pas tous ses secrets. C'est ce que vous allez voir tout au long de ces épisodes. Partagez l'affiche avec Charles,
oui,
Berling aussi.
Absolument.
Comment on ressort d'un tournage pareil ? Il y a eu beaucoup de scènes de nuit. Vous êtes quasiment sur tous les plans. On doit ressortir complètement éprouvé d'un tournage comme ça.
On ressort à la fois épuisé et en même temps c'était vraiment vivifiant. J'entends par là que je trouvais que j'avais un très beau rôle à interpréter, à défendre, et ça s'est fait dans des conditions assez merveilleuses, quoi, avec un metteur en scène qui s'appelle Frédéric Mirmont, qui est d'une finesse, d'une précision, qui justement alors que c'est assez lourd quand même, cette histoire. C'est un périple en fait, un périple au sens propre, à accompagner tout le monde, tous les acteurs, que ce soit moi, mais également Charles Berling, Stanley Zébert, et puis Martine Chevalier, enfin, il y a un casting absolument remarquable. Donc ça nous a porté. Et puis voilà, parfois ça arrive comme ça où tout prend. On tournait en Bretagne, c'est une région merveilleuse où on a été accueillis avec tellement de gentillesse. Les gens étaient heureux d'être sur ce projet. Voilà. Et puis j'avais des partenaires formidables, que ce soit Charles, que ce soit Talmay, que ce soit le jeune garçon Jérémy Gillet. Enfin voilà, il y avait tout un casting qui était stimulant. Alors c'était fatigant, mais c'était stimulant à la fois.
Et ben voilà, au moins c'est une très très belle expérience. Il y a une scène particulière qui ressort, que vous vous souviendrez longtemps?
Oh, il y en a plusieurs, parce que là, pour le coup, j'avais une succession. Peut-être le cimetière.
Ouais, dans le premier épisode.
Et puis, il y a aussi dans ce film Jean-François Stévenin.
Oui.
Donc c'était probablement le dernier rôle, et qui nous a quitté peu de temps après, qui est un acteur merveilleux.
Qui joue votre père.
Oui, absolument. Voilà, donc je me souviens aussi beaucoup de toute cette séquence parce que c'est lui, parce que c'est voilà, c'était avec lui quoi.
Ouais. Et je suis sûr que voilà, France Télévisions lui dédiera aussi cette fiction et ce premier épisode.
Vraiment.
En tout cas, on pense à lui et puis à Sagamore, Salomé, voilà qu'on a déjà eu l'occasion
et à Robinson
qu'on a eu l'occasion d'avoir effectivement. On les embrasse tous.
Absolument.
Virginie, des projets pour 2022, cinéma, télévision, théâtre, est-ce qu'on va voir dans d'autres choses aussi?
Alors, vous verrez bientôt un téléfilm, José Dayan, qui s'appelle Diane de Poitiers, avec Isabelle Adjani. Voilà, qui est, je crois, prévu à la rentrée, il me semble.
Oui, qui a été tourné à l'automne, je crois, d'ailleurs, qui est en fin d'année.
Qu'on a tourné cet automne, qu'on a fini à la fin de l'année. Et bon, c'est totalement autre chose, voilà, qui, je crois, sera très surprenant.
On a hâte de voir ça, nous en avait parlé au Festival du film d'Angoulême, où elle allait démarrer le tournage quelques jours après.
Exactement.
Et elle nous en a parlé de façon passionnante. On a hâte de voir ça, évidemment. Ça sera l'occasion de se rappeler en même temps, comme ça, Virginie.
Exactement, avec plaisir.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous, à très bientôt.
L'île aux 30 cercueils, c'est ce soir sur France 2. Vous allez voir, c'est plein de mystères, de rebondissements, et c'est à ne pas rater les deux premiers épisodes. On écoute.
Tu sais qui a tué mon fils?
Ils nous écoutent. Ils te cachent, ils te veulent du mal.
De qui tu parles?
Déterre pas le passé.
Christine sème la mort partout où elle passe.
Oh, arrêtez avec ces légendes.
Si tu continues avec tes conneries, c'est toi qui vas finir par être morte.
35, lui. 30 canons. Il y aura 30 cercueils.
Non,
30 cadavres, 30 cercueils. 30 cadavres, 30 cercueils.
Notre invité aujourd'hui, je sais que vous l'adorez et on adore détester son personnage, tellement il est fort ce personnage de Louis Guinaud, Fabien Wolfrom, qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre invité. Salut Fabien.
Salut, comment ça va? Je fais Louis Guinaud, le méchant, et si tu commences?
Ah oui, mais on l'aime bien ce méchant aussi. Alors là, il est parti faire quelques infidélités au chef Tessier du côté de Lille, mais reviendra-t-il? Voilà, il va revenir, c'est sûr, nous faire encore quelques mauvais coups dans les semaines qui viennent, j'en suis sûr.
Oui, comptez sur lui pour revenir, il en a jamais marre, ce garçon, il est un petit peu pervers. Donc oui, il a évidemment de très bonnes raisons de venir, je ne les connais pas encore au moment où je vous parle parce que je n'ai pas encore repris le tournage et je n'ai pas encore les textes. Néanmoins, j'ai eu quelques pistes de réflexion de la part des scénaristes et de la production. Et oui, effectivement, Louis est insatiable et Louis va revenir pour faire des saloperies à tout le monde, voilà.
T'es toujours étonné de ce que t'écrivent justement les scénaristes ou toi t'irais même encore plus loin?
Non, étonné, le mot est fort, mais de toute façon ils ont besoin d'un méchant, enfin de plusieurs méchants pour qu'il y ait des gens.
Servi dans ici, tout commence entre Tessier et lui.
Ah bah tout le monde, et puis tout le monde est méchant vis-à-vis d'un autre personnage à un moment ou à un autre, donc c'est du soap, mais forcément il faut faire des trucs, donc...
En tout cas, ce personnage pour toi c'est jouissif pour un comédien de jouer un peu un méchant comme ça?
Ouais, jouissif aussi le mot est fort, mais c'est un fort plaisir absolument. En fait, le plaisir c'est de jouer des scènes de conflit où Louis est particulièrement odieux avec des gens avec qui je m'entends bien. Ça c'est formidable.
Comme Catherine, par exemple, Catherine Marshall?
Oui, comme Catherine, bien sûr, par exemple, ou comme Paula, ou Sarah Cheyenne à l'époque où Louis était avec Elodie, ou tous les autres personnages. Tout le monde est... Honnêtement, il y a une véritable... C'est pas des formules, il y a une véritable bonne ambiance sur le plateau. Donc c'est toujours un plaisir de s'engueuler devant les caméras, avec Elsa, par exemple, qui est absolument adorablissime.
Enfin voilà. Ça, c'est vrai.
Benjamin, forcément, on se fout sur la gueule en permanence. Évidemment, on s'apprécie évidemment beaucoup.
Alors qu'il est tellement adorable, Benjamin Baroche, aussi, qu'on embrasse.
Et puis il fait pas semblant de l'être. Salut, Benjamin. Enfin voilà. Donc... Donc non, mais bien sûr, c'était toujours un plaisir de s'engueuler devant la caméra.
Alors toi qui es passé aussi par la case cinéma, non, te suit depuis cette époque-là, parce que tu as quand même joué Franck Dubosc jeune. T'as vu, je ressens les vieux dossiers, hein.
Ouais, Franck, qui est un monsieur absolument adorable aussi.
C'était Bis, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Moi, je vous conseille de voir le film, c'était très drôle.
Ouais, le tournage de Bis, c'était marrant. Putain, c'est marrant d'en parler maintenant. Ouais, l'une des premières expériences de tournage. C'était formidable aussi, il y avait une très bonne ambiance. Surtout, monsieur Farrugia, Dominique, qui est un homme charmant, qui ne fait pas non plus semblant de l'être, et qui n'a rien à prouver à personne. Et comme souvent, les gens qui n'ont rien à prouver à personne, bah, il est d'une grande humilité, et très humain, très, très sympathique. Donc voilà, oui, Bis, c'était marrant. C'est marrant de parler de Bis maintenant.
Ouais, parce que c'est ça qu'on t'a découvert. Nous, on t'a découvert par ce film-là à la base, et on te suit depuis. Alors tu t'es écarté des plateaux de tournage de Saint-Laurent-des-Gousses, mais pour la bonne raison, Fabien, parce que ça va être ton année. Alors entre le biopic sur Bardot, entre le théâtre, il y a plein de choses qui t'attendent pour 2022, avec en plus ces tournages aussi d'ici tout commence que tu reprendras dans quelques semaines. Mais du coup, 2022, tu fourmilles de projets.
Merci d'avoir la gentillesse et l'élégance de m'en parler et de me laisser en parler. Oui, effectivement, je fais du théâtre bientôt à Paris et ailleurs, à Avignon également. Très content de faire du théâtre. Je suis aussi très content de faire de la télévision, éventuellement du cinéma un jour, advienne que pourra. Donc voilà, ouais. Et puis de la télé aussi, d'autres tournages qui sont en train de se mettre en place. Donc je suis excessivement content, évidemment. Et puis la reprise, ici tout commence, parce que voilà, on est content de retrouver les copains et de gagner des sous.
Sacha Distel, c'est le rôle que tu vas jouer dans le biopic sur Bardot.
Donc oui, absolument, ouais. À ma grande surprise, Distel dans Bardot. Parce que Sacha Distel et Brigitte Bardot sont sortis ensemble, comme chacun le sait. Et donc voilà, le tournage commence en mars, il continue en avril, en mai, en juin, à Paris.
Bah, tu vas pas t'ennuyer, là, hein.
Également. Ça va être l'usine, c'est très bien, ça va être un tunnel de tournage et c'est très bien, je suis très content, voilà.
Bon, c'est une belle année, en tout cas, qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel tu te sens le mieux, sur scène, par exemple, au théâtre, sur un plateau de tournage à la télévision? Souvent, les comédiens disent, nous, moi, j'adore le théâtre parce qu'on a le retour direct du public. On a le public en face de nous. Et ça ne ment pas. On peut pas tricher, en plus.
Je répondrai à cette question quand j'aurai beaucoup d'expérience, 25 ans de scène et de cinéma, mais oui, évidemment, c'est pas du tout le même rapport au public, c'est pas le même rapport de com, c'est pas le même rapport au metteur en scène, c'est pas le même... Voilà, ici tout commence, c'est une machine, c'est très formalisé, le théâtre n'a rien à voir, tout a son intérêt, évidemment, et puis voilà, j'ai pas de préférence, tout m'intéresse. Par contre, j'ai de plus en plus tendance à me payer le luxe de refuser les choses qui ne m'intéressent pas forcément au premier abord.
De faire des choix.
De commencer, de pouvoir envisager la possibilité d'éventuellement refuser certaines choses, oui.
T'as été étonné de voir la popularité que pouvait apporter une série quotidienne, comme Ici tout commence. Est-ce que tu te doutais de ça au départ, avant que démarre cette aventure incroyable? Parce que c'est une série, c'est un peu particulier quand même, Ici tout commence, c'est que le succès a été immédiat. Ça a été tout de suite 3,5 millions de téléspectateurs, il n'y a pas eu de sas entre les deux, il y a eu une montée en puissance petit à petit, ça a vraiment été immédiat. Vos personnages aujourd'hui, il y a des fans partout dans les rues de Saint-Laurent-des-Gousses qui vous chassent, pour le coup, à longueur de temps. Est-ce que toi, t'as été surpris? Ça.
En toute limpidité, non, j'ai pas été étonné du succès de la série parce que c'est un produit qui est fait pour, donc ça a été très étudié par les gens qui l'ont fait en amont. En revanche, pour être tout à fait honnête, oui, j'ai été quand même surpris par le fait que beaucoup de gens, on m'avait prévenu en fait, mais il y a pas mal de gens qui confondent le personnage et l'acteur. Donc moi,
quotidienne, c'est terrible. Oui.
Ah mais c'est incroyable. Moi, ça me joue des tours. Parfois, ça me rend grand service, et puis parfois, ça m'attriste un petit peu. Mais la plupart du temps, c'est très plaisant. Les gens sont adorables. L'immense majorité des gens fait évidemment la différence. Et puis il m'arrivait de temps en temps d'être reconnu avant Ici tout commence. Évidemment, avec ITC, ça a été multiplié. Mais je ne me fais aucune illusion. Je sais très bien que si tu arrêtes de passer à la télé pendant 2 mois, il n'y a plus rien. Donc on verra bien ce qui se passera. Si je peux faire autre chose que Louis Guinaud, ça m'arrange beaucoup. En attendant, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, bien sûr. Ouais.
Théâtre, cinéma, télévision, Ici tout commence. Bref, une belle année qui s'ouvre à toi. Merci Fabien d'avoir été avec nous. Merci. Et puis tu reviens quand tu veux.
Merci infiniment pour cette gentillesse et l'élégance de vos questions.
À très bientôt. Et dans un instant, Christophe Baratier et Mélanie Douté nous rejoignent pour Le Temps des Secrets. Le film sort mercredi dans les salles. Alors à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute. écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et c'est notre spécial Le Temps des Secrets. Le film sort mercredi dans les salles. C'est l'adaptation de la troisième partie des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, adapté par Christophe Baratier, qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mélanie Douté, qui joue la maman de Marcel Pagnol, qui est avec nous également. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Christophe, comment est venue cette idée de faire cette adaptation de cette troisième partie des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol?
C'est pas de moi l'idée, c'est de la productrice Hélène Casse qui est venue me voir. Je pense qu'elle plus ou moins tapait à la bonne porte. Je parle pas en matière de qualité, mais en matière d'écoute en tout cas, puisque Pagnol fait partie de mon... c'est même pas un bagage que je me suis fait, c'est le bagage qu'on m'a donné. Ma grand-mère, qui était comédienne de théâtre avant-guerre, avait beaucoup joué Pagnol. Ses murs étaient constellés de photos qu'elle avait avec Charpin, Rému, Maupy, toute la bande. Et donc Pagnol, je ne me souviens pas quand je l'ai découvert... Je suis né avec, presque. Et j'avoue que ça m'a une première fois intimidé. Et puis en même temps, pas trop, parce que Pagnol n'est pas, comment dire, un auteur devant lesquels on est écrasé par une espèce de... J'ai pas l'impression de m'attaquer à Shakespeare non plus, ou Molière. C'est parce que simplement, c'est des choses qui nous sont très très proches. Et c'est ça qui fait le génie de Pagnol, c'est de pouvoir donner de la profondeur à des tout petits détails. Et d'ailleurs, dans les souvenirs d'enfance, il est de lui-même, parce que je l'ai adapté, c'est pas facile, hein, parce que le récit n'est pas aussi bien construit. Il fourmille de plein de jolies anecdotes, mais il n'est pas aussi bien construit que le château de ma mère, qui d'ailleurs était fermé dans le château de ma mère. À la fin, il y a les scènes des personnages. Donc là, il a fallu beaucoup recomposer, mais je me suis servi alors beaucoup de, même de petites touches pour les traits de caractère. Dans d'autres œuvres, tout est de Pagnol d'une certaine façon, mais je l'ai simplement fait pousser un peu comme un arboriste avec un herbier. Et ensuite, justement, puisque Mélanie est là, c'est des personnages peut-être qui posaient plus de, entre guillemets, de problème, parce que la mère de Pagnol est décrite comme tellement aimante, tellement raisonnable, toujours à tout arranger, toujours à tout comprendre, être consensuelle, que c'est un personnage qui, certes, dans la vie, on adorerait avoir une maman comme ça, mais pour l'écran, il manquait une part de une petite fêlure, une blessure secrète. Et avec Mélanie, on s'est très bien entendu, justement pour lui donner, elle aussi d'ailleurs participe, puisque ça s'appelle Le Temps des Secrets. C'est l'âge où Pagnol découvre que on doit cacher des choses, qu'il faut pas tout dire, que même parfois on doit mentir, mais il s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à faire, parce que les parents, avec leurs injonctions, désobéissent aussi, dissimulent aussi, mentent aussi, et parfois aussi se conduisent mal, enfin d'une certaine façon.
Mélanie, comment se prépare à ce rôle? On lit, on se documente, comment on se prépare à ça?
Oui, on lit, évidemment, on relit la trilogie merveilleuse, on essaie de se replonger un peu dans l'univers du début du siècle. C'est vrai qu'on a fait des lectures avec Christophe, on a abordé aussi cette histoire de l'accent, c'était important de l'évoquer, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas Pagnol sans cigale, on n'imagine pas le Sud sans ce côté très chantant qu'il évoque. Donc on a beaucoup travaillé sur l'accent, et puis on s'est tous rencontrés, il fallait créer une famille, et ça a été incroyablement harmonieux. Christophe a tout de suite, à travers son casting, il a créé une famille. Il y a une harmonie qui s'est faite entre nous quatre, et avec les enfants, il y a une évidence. Donc on s'est très vite sentis en confiance. Christophe dirige avec énormément de tendresse. Je suis maman. Donc j'ai écouté mon cœur de maman et j'ai essayé d'être... Parce que c'est vrai que Pagnol a une admiration pour sa mère absolument dingue, qui est fragile. Mais ça se passait tellement dans un cadre déjà magnifique, qui est ce sud-là. Et puis dans un cadre très doux. On était à l'écoute des enfants beaucoup. Et c'était absolument agréable, ce tournage.
Ce que Mélanie a vraiment formidablement intégré, c'est... ça, c'est un peu... C'est pas du tout mon invention. Mais c'est dans le récit de Pagnol, ça n'affleure pas. Mais c'est que Augustine, donc la maman, était atteinte d'une déficience... je sais pas ce que c'est exactement. Enfin, c'est une grosse déficience pulmonaire. Et elle était tout le temps... je pense qu'elle se sentait précaire. D'ailleurs, elle est morte 5 ans après le temps des secrets. Et donc c'était un peu ça, je crois qu'on a travaillé, on a développé cette idée-là, c'est que chez Augustine, qui a élevé 3 beaux enfants, on le voit dans le film, elle est plus maintenant, toujours en période d'éducation, mais elle connaît sa fragilité, elle connaît la précarité de sa vie, et notamment c'est pour ça, c'est un peu notre invention, elle s'engage finalement pour une cause, en se disant maintenant, c'est vrai que j'ai été formidablement au service des autres, maintenant je vais penser un tout petit peu à moi.
La part belle est faite aux enfants, justement, et tu as le don, Christophe, justement, de trouver un casting mais juste impeccable. On va parler du petit Léo Campion, qui a un regard qui transperce l'écran, mais juste de manière phénoménale. Et on va y revenir dans un instant. On va écouter d'abord la bande-annonce, Le Temps des Secrets. C'est mercredi dans les salles. On écoute.
Eh oh, Lily!
Eh oh, Marcel!
Alors, tu dis quoi?
Mais je
suis content, et toi, tu dis quoi?
Ah bah, je suis content aussi, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel?
Bah, que je suis content.
C'est parti pour les vacances.
Premier arrivé.
De retour pour notre spécial Le Temps des Secrets. Christophe, c'est ce que je disais, tu as le don pour trouver vraiment le casting parfait. Et souvent, tu as l'habitude de travailler avec les enfants au cinéma aujourd'hui. Mais comment t'as fait pour trouver ce petit Léo qui incarne Marcel Pagnol de façon absolument incroyable?
C'est très simple, il faut mettre beaucoup de directions de casting. On fait des milliers d'annonces en France, ils reçoivent des milliers de bandes. J'en ai une sélection de 200, il y en a à peu près une trentaine que je vois en direct. Mais j'avoue que dans ce cas particulier, c'est comme d'habitude, il faut, je l'oublie à chaque fois, mais on passe des mauvais moments parce qu'il faut s'armer de patience. Pour une chose, c'est que autant, j'allais dire, sur un rôle d'adulte, on peut parfois avoir deux ou trois choix qui sont tout à fait crédibles, autant souvent sur un enfant, surtout un personnage clé, il y en a qu'un seul. Quasiment, il faut le trouver. Mais j'ai appris maintenant que, vous savez, quand on fait passer des essais, les enfants se présentent. Ils disent, je m'appelle ceci, je vais... Généralement, dans les 10 secondes, ça vous intéresse ou pas. Voilà. Mais comme vous l'avez dit, déjà, on voit immédiatement une chose, si ce regard, si le regard transmet à l'écran, si on a envie de le regarder. Si je me commence à regarder, en plus, il y a un sourire qui s'affiche, ça, c'est très bon signe. Et Léo, je l'ai trouvé pas longtemps avant de tourner. Une semaine avant le dépôt des dossiers, j'ai eu un essai du petit Léo qui est arrivé. Comme toujours, l'essai était formidable. Quand je l'ai rencontré, c'est moins bien passé, mais ça c'est normal. Mais en plus, c'est vrai que, et puis grâce aussi à l'entourage, parce que l'entourage ça compte. Je pense qu'il a trouvé en Mélanie, Guillaume, Anne Charrier et François-Xavier de Maison des gens qui aiment les enfants, qui voient donc l'intégration s'est faite. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin Mélanie peut en témoigner. Il y a des moments de la scène du repas et tout, il a vraiment pris le pouvoir sur la table.
Hein. Ouais, il était. Totalement. Et puis il y avait quelque chose de très touchant de voir pendant au début du tournage la fragilité de Léo et puis la confiance, parce que c'est des âges aussi qui sont en mutation. Ça doit être très difficile aussi pour un réalisateur, je pense, non, de choisir de jeunes enfants et de voir un jeune adulte à la fin du tournage, parce qu'il y a une croissance qui se fait, qui s'accélère énormément.
Oui, bien sûr. Ça va très vite, c'est-à-dire qu'au bout de deux jours, ils comprennent pas pourquoi les micros se baladent et tout. Puis au bout du troisième jour, ils disent, je suis dans le champ là ou pas?
Non.
Tu veux que je me mette en amorce? Oui, c'est dans tous les trucs. Maintenant, ça fait fausse coupe si je fais ça. Ils comprennent très très vite.
On est déstabilisé des fois quand on est face à un enfant comme ça.
Déstabilisé, non, mais on est obligé d'être au plus près de la vérité, d'être super à l'écoute. Donc avec Léo, il y a pas eu ça. C'était avec plus la petite dernière qui était elle un petit diablotin absolument à croquer, hein, mais qui, je pense, n'avait pas compris. Et tant mieux, ce qui fait qu'il y a des moments hyper spontanés de sa part, mais qui comprenait pas ce que je pense, ce qu'elle vivait. Et donc il y a vraiment des séquences où je me retrouvais avec un doigt dans le nez et je dis non.
J'ai vu le montage, oui, j'ai vu la pauvre. J'avais pas réalisé sur l'instant. Mais il y a plein de prises, vous savez, parfois on fait des plans d'écoute, donc elle parle pas, mais elle avait la petite qui a pu tirer les cheveux. Et Mélanie qui continue à être dans le jeu, comme ça, c'est gueule.
C'est vrai que dans la vie, par exemple, quand on porte son enfant, l'enfant, c'est vrai, il peut faire des trucs, et on n'est pas toujours en train de faire, ah non, arrête, parce que, je pense que ça donne des moments vrais de vie.
Connaissant un peu les trois autres partenaires, François-Xavier de Maison, Guillaume de Tonquédec et Anne Charrier, il y a dû y avoir des moments drôles, notamment sur les scènes de repas, entre les prises. Ça a dû se lâcher un petit peu quand même sur le plateau.
Alors ça se lâchait sur le plateau, mais pas pendant les prises. Je pense que tu as choisi des gens fort sympathiques, assez travailleurs quand même. Et puis c'est une langue assez précise. On est au début du siècle, on se rend pas compte aujourd'hui combien on a rajouté des scories à notre langage quotidien. On est en permanence en train de faire, enfin tu vois quoi. Okay, on met des quoi, des okay, des à chaque phrase. Là, ça ne peut pas exister. Donc, si on se lâchait totalement, on aurait fini par faire des trucs.
J'avais la chance d'avoir quatre acteurs extrêmement précis. Et ça, c'est agréable. Et quand je dis précis, c'est pas seulement qu'ils jouent bien de ça, c'est que, voilà, quand les scènes sont répétées, vous savez, c'est compliqué. Une scène de repas, on la filme avec huit angles différents. Donc, quand elle sert le café, c'est tout con. Mais il faut que ce soit sur la réplique. Ça, il y a des gens, des acteurs qui sont pas douteux d'activité. Et ça, j'avoue que j'ai des acteurs qui étaient formidablement précis, ce qui les empêchait pas d'être parfaitement, d'avoir intégré de façon très naturelle une langue, parce qu'encore une fois je dis c'est des petites choses simples qui se disent finalement, et malgré tout on a poussé dans certaines scènes, notamment avec Mélanie, sur des choses plus presque tragiques, émotionnelles, qui n'étaient pas franchement dans le récit Pagnol les plus pudiques qu'on l'a été. Mais je pense que de nos jours on avait besoin de ça pour sortir un tout petit peu de la bonne petite famille parfaite.
Le film est formidable. Franchement, les paysages sont magnifiques. Le casting est impeccable. Le Temps des Secrets, ça sort mercredi dans les salles. Il y a eu une quatrième nouvelle qui n'a pas été achevée par Pagnol, qui s'appelle Le Temps des Amours. Est-ce que tu y penses, Christophe? Est-ce que tu aurais envie?
Oui, j'y pense. Mais alors, autant Le Temps des Secrets se termine pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il est pas bouclé comme les autres. Le Temps des Amours est encore pire parce qu'en fait, c'est une réunion de textes post-mortem, enfin, disons posthume. Et alors là, qui n'a pas de fin et qui n'a pas de début. Donc, c'est une suite de jolies chroniques dans lesquelles il manque vraiment une unité, donc faut la trouver. Puis j'aurais un problème aussi, c'est que on a un moment, elle est plus... donc j'ai prévu un cercueil. T'es pas obligé d'être dedans, mais non. Si jamais en revanche je le ferai, parce que moi j'ai envie, c'est pas forcément Le Temps des Amours, mais moi j'ai envie de donner une suite à cette famille. J'ai envie de la revoir. Et par conséquent, prenons l'âge du petit Léo, il va arriver dans Le Temps des Amours, mais je pense aussi qu'on peut faire revivre. Je pense que les séries américaines ne se gênent pas pour faire beaucoup de flashbacks sur les choses, donc aussi ne pas se gêner, parce que non, mais c'est vrai qu'en plus, parce que de passer directement sur Enterrement, je pense que là en fait c'est la disparition d'Augustine qui a créé ensuite, qui a fait que la Pagnol qui était parfaite s'est délitée totalement. C'est que son père après s'est mis avec la dame qui gardait les enfants, par celle qui était à la maison, les oncles Jules, le beau paradis, c'était terminé. Donc moi il faut que je trouve une manière de le faire revivre, donc ça sera là cette fois une adaptation très librement respirée.
Le Temps des Secrets, c'est mercredi dans les salles. Christophe, on se retrouve ensuite ensemble du 29 juin au 3 juillet. Ça sera la boule au Festival de cinéma et musique de films que je suis sûr que tu es déjà en train de préparer. Donc on se retrouve là-bas, bien évidemment. On viendra te soutenir comme tous les ans, quasiment maintenant.
Avec plaisir, merci.
Merci beaucoup Mélanie.
Merci à vous, merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera du téléfilm Elle m'a sauvé qui sera diffusé le mardi sur M6 avec Lio, le réalisateur, Clément Manuel. Toute l'équipe sera là. On parlera également de Mise à nu, ce téléfilm avec Julie Debona, le producteur, réalisateur. Également, tout le monde sera là. On parlera également de Parallèle, la série Disney Plus qui sera mise en ligne cette semaine. On accueillera Thomas Chomel qui est un des héros principaux et qui sera aussi à l'affiche de la nouvelle saison de Clem. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volet battant, coulissant ou persienne. Innovant, fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.